Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes, ça m'intéresse pas.
You are fake news.
Hello. Il est presque 9h40. Merci à tous d'écouter France Inter. Et c'est l'instant M qui redémarre.
Vous êtes en direct, allez-y.
C'est l'histoire d'une jeune journaliste qui viendra à l'investigation en découvrant sa mère malade, empoisonnée au mercure malgré le déni du monde médical. C'est l'histoire d'une fine lame qui aiguisera ses recherches sur la santé publique et petit à petit sur l'environnement. C'est l'histoire d'une enquête sur les algues vertes. C'est l'histoire d'Inès Leroux qui s'est installée en Bretagne au plus près de ses agriculteurs et de ses habitants, de ses médecins qui ont compris avant les autres, de ses industriels locaux qui font régner l'omerta. Inès Leroux en a tiré de passionnants documentaires radiophoniques. À l'époque, elle parlait de déni. Le son s'est transformé en texte et en images. Une bande dessinée est née. On parlera désormais d'enquête interdite.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour à vous Inès Leroux.
Bonjour.
Soyez la bienvenue chers consoeurs. Je propose à tous nos auditeurs de réécouter absolument sur le site de France Culture Algues Vertes, le déni en deux parties. Si vous avez un petit peu plus de temps, vous pouvez vous lancer dans Le Journal Breton en 22 épisodes. Voilà, c'est l'occasion pour moi de saluer l'autre Sonia, Sonia Kronlund, qui vous a ouvert tout grand les ondes des pieds sur terre. On l'entend hein, d'ailleurs, Sonia Kronlund, introduire votre travail hein, et servir de fil rouge dans vos enquêtes radiophoniques. Vous venez de sortir, et c'est pour ça que je vous reçois aux éditions Delcourt, Algues Vertes, l'histoire interdite, et on va voir pourquoi elle est interdite. Et sinon, je conseille aussi aux auditeurs de rattraper les trois premiers épisodes de Jeux d'Influence ou de regarder la suite sur Arte jeudi, c'est une série qui cartonne. Et vous allez voir, c'est très troublant parce que c'est une fiction que vous nous racontez une enquête sur la réalité et qu'on ne sait plus si la réalité dépasse la fiction ou la fiction dépasse la réalité. Voilà, sinon j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Petit. Salut Cyril.
Bonjour Sonia.
Voilà, en chair et en os, rédacteur en chef central au JDD qui vient nous voir de temps en temps avec des histoires de presse. Et aujourd'hui, mon journal à la vie, à la mort. Alors voilà, Libération vient de lancer un abonnement à vie. À vie? Vraiment?
Oui, à vie. Alors pour 400 euros, vous avez accès ad vitam aeternam au journal en PDF, ouais, au site web, aux applications, aux newsletters. Alors l'offre 100% numérique n'est accessible que cette semaine, hein, il faut se dépêcher, et réservée aux 1000 premiers abonnés. Hier soir, hein, Libé a indiqué...
C'est aussi
un coût marketing, hein, ouais. Ça dure une semaine, et donc hier soir, Libé comptait déjà 200 inscrits. Ouais. Alors cette offre ne concerne pas l'édition papier, hein, dont on ne peut garantir l'avenir.
Sans blague, à votre avis, il y en a pour combien de temps? Des journaux en papier et Libé en papier, on verra. Bref. C'est la première fois qu'un journal propose un abonnement à vie?
Eh bien non. Dès 2000, l'hebdo Jeune Afrique vendait des abonnements dits perpétuels. Ouais. Il y a encore quelques dizaines de lecteurs qui en profitent. De même pour Fakir. Hein. Fakir, mm-hmm, le trimestriel de François Ruffin. Hier, le député de la France Insoumise m'a confié avoir 470 abonnés à vie qui ont payé 200 euros. Et même, attention Sonia, 9 personnes qui bénéficient de l'abonnement héritable. Hein, donc c'est un abonnement qui se transmet après la mort.
À ses enfants et à ses petits-enfants.
Exactement. Alors ceux-là ont donné 1000 euros. Mm. Plus récemment, on le voit, l'abonnement à vie est proposé par des médias qui se lancent via des souscriptions en ligne. Exemple du Quinzomadaire Society, hein, qui en a 8 depuis 2015, et de Zadig, hein, le tout jeune trimestriel lancé par Eric Fotorino en mai. Mm-hmm. Il compte 9 abonnés à vie.
Déjà?
Ouais.
Déjà,
alors, c'était pour la souscription des débuts.
D'accord. Alors bref, l'abonnement à vie de Libé, en fait, il est rentabilisé, vous avez calculé, au bout de 50 mois, c'est-à-dire un peu plus de 4 ans. On peut espérer que Libé tout court va vivre jusque-là, et on peut même l'espérer ardemment. C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'adhésion, finalement.
Oui, exactement. Il est loin le temps des radios réveils ou de l'encyclopédie pour appâter les abonnés. Il y avait des inventions dingues. Mediapart, par exemple, a été le premier média numérique en France à réussir ça. C'est-à-dire qu'au-delà des infos, on s'abonne au site d'Edoui Plenel pour défendre une vision du journalisme, pour faire partie d'un club. On parle beaucoup d'adhésion. Hein. Mm. Il y a du militantisme dans tout cela. Autre exemple, en Grande-Bretagne, le Guardian a gardé un modèle gratuit sur le web et même supprimé la pub en échange du soutien financier de ses lecteurs, hein, qui deviennent des supporters au sens premier du terme en anglais. Mm-hmm. Chacun donne ce qu'il veut, quand il veut. Et avec ce nouveau mode de financement d'adhésion, Le Quotidien dit avoir atteint l'équilibre financier.
Voilà, alors ça signifie qu'on adhère, d'accord, aux valeurs d'un journal, à sa vision de l'actualité, on y adhère, mais qu'on a aussi envie de payer pour ça. Et
exactement,
qu'on est prêt à payer pour l'information.
Exactement,
pas gagné,
mais
ça.
Payer pour l'information, c'est compliqué, hein, puisqu'on paye déjà pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'abonnements. Ouais. L'étude du Reuters Institute, publiée la semaine dernière, a jeté un froid, hein, puisqu'on y lit que seuls 11% des lecteurs dans 38 pays, hein, dont la France, sont disposés à payer pour de l'info en ligne. Plus grave, c'est que ce chiffre, il stagne. Hein. Il stagne depuis plusieurs années et les chercheurs parlent même déjà de fatigue de l'abonnement, puisque entre Netflix, Spotify et les autres, quelle place là-dedans pour l'info ? Alors, quand on demande aux sondés si entre la vidéo, l'audio et l'info, ils devaient choisir, ils sont seulement 7% chez les moins de 45 ans
à choisir l'info,
à choisir un média. Et puis, s'ils choisissent un média, lequel choisir si on n'a que 10 ou 20 euros à mettre dans de l'info ? On choisit Le Monde, on choisit Ouest France, on choisit Mediapart. Mm-hmm. Lequel on choisit ? Donc les médias vont aller susciter cette adhésion pour attirer des abonnés, ou alors ils vont offrir de nouveaux services. Aux États-Unis par exemple, hein, comme le rapporte Le Monde, le Washington Post, que possède le PDG d'Amazon, propose à ses abonnés des réductions pour la livraison de produits. De son côté, le New York Times, hein, qui a dépassé les 3,5 millions d'abonnés numériques grâce à son positionnement offensif face à Trump, là a aussi réussi cette gageure grâce à autre chose, hein, grâce à deux choses, grâce aux applications de cuisine et aux applications...
Ça on le dit jamais.
Non, et aux applications mots croisés qui sont à l'origine de 40% des nouveaux inscrits. Si, 40% des nouveaux inscrits. Mais tout ça, c'est l'histoire des journaux aussi. Il n'y a pas que de l'info dans les journaux. Alors, Libé est un Suisse modèle, puisque son offre à vie, elle inclut la newsletter cuisine Tumiton et l'appli ludique Rageux. Il n'y a plus qu'à faire comme le New York Times.
Merci beaucoup, Cyril Petit. Les histoires de presse de Cyril Petit à réécouter sur franceinter.fr.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
À ce moment-là, donc, la direction de l'hôpital, par l'intermédiaire du directeur adjoint, est venue me dire « Attention, Monsieur Philippe, on a des coups de fil de la DAS et de la préfecture où vous êtes sur la ligne rouge, il ne faut pas que vous la franchissiez. » Enfin bon, on m'a bien mis en garde. Hein. Je leur avais dit « Écoutez, je peux vous assurer que cette fois-ci, si vous mettez un frein aux analyses qu'on va faire, là, vous allez avoir toutes les associations environnementales sur le dos et elles pourront prouver que vous avez obstrué une avancée scientifique, hein, tout simplement. »
Inès Leroux est mon invitée ce matin. En passant de l'enquête radiophonique à la bande dessinée, vous êtes passée du déni à l'enquête, à l'histoire interdite. En quoi est-elle interdite, cette histoire ?
En fait, cette histoire, elle est interdite d'une part parce que les témoins, les nombreux témoins que j'ai enregistrés... ont tous subi d'une manière ou d'une autre des pressions pour ne pas parler, soit avant mon enquête, ce qui fait que leurs alertes n'étaient pas entendues, ou bien après des prises de parole dans la presse pour révéler ce qui se passait sur les places bretonnes, ils subissaient différents types de pressions, des lettres de menaces, etc. Et aussi parce que, en fait, cette histoire, elle est quasiment impossible à écrire puisque toutes les preuves ont été détruites finalement. Ouais. Les différents corps qui ont été retrouvés sur les plages bretonnes n'ont jamais été autopsiés. Ils ont été enterrés avant toute autopsie.
Alors donc, justement, c'est ça voilà, qu'on va raconter. Hein. Déjà dans l'épilogue du journal breton, vous racontiez Triskalia, un groupe qui réalise 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est le premier employeur en Bretagne, premier vendeur de pesticides. Des parents d'élèves se mobilisent, racontez-vous, contre une opération de com' de Triskalia qui consiste à animer des ateliers auprès des enfants à l'école primaire, carrément.
Et donc, à partir de là, eh ben, en fait, le débat public, moi, je l'ai laissé vivre sa vie sur les médias nationaux, sur Facebook, etc. Et puis, localement, eh ben, le débat, il a continué sous une forme très différente. Ça veut dire que, ben, il y a des gens qui disent plus bonjour. Dans la rue, c'est quelqu'un qui me dit, attention, va pas là-bas parce que... Et il me fait ce geste-là, quoi. Le pouce qui tranche une gorge, quoi, grosso modo. Genre, j'ai coupé la tête, quoi. Moi, j'étais clairement mis en difficulté par ces réactions-là, qui étaient vraiment quand même devenues très dures, quoi. Ça veut dire qu'on n'était plus en train de dire d'accord, pas d'accord, on est en train de dire ferme ta gueule, quoi.
Et puis, vous racontez, Inès Leroux, la manif des salariés de Triskalia, qui n'en peuvent plus d'être attaqués et conspués, qui sont fiers de leur entreprise. Manif organisée par la communication de l'entreprise. Vous racontez aussi, par exemple, la vie difficile d'André Olivreau, un militant écologiste qui subit menaces et pressions. Et vous, Vous avez choisi de vous installer sur place. Vous avez choisi de vivre avec eux. C'est plus difficile ou c'est plus facile pour une journaliste ?
En fait, je me suis installée là-bas en 2015. Oui. Et la première année, j'ai eu l'impression que c'était plus difficile. J'habitais au milieu d'agriculteurs intensifs dans un village agricole et les personnes, il y avait beaucoup de défiance à mon égard en fait. Et petit à petit, la confiance s'est installée. Au bout d'un an, j'ai commencé à avoir des rapports de confiance et j'ai senti un soutien énorme de la population qui a changé son regard sur le journalisme, qui a compris la nécessité d'un travail d'enquête sur leur territoire.
Il n'empêche que quand Triskalia retourne ses armes de communication contre vous en publiant votre photo et en tentant de salir votre travail, bien vous vous retrouvez exactement comme tous ces gens dont vous parlez qui subissent des menaces et des pressions. C'est-à-dire vous retrouvez exposé à ça.
Oui, je me suis sentie en effet mise en danger, surtout que l'agroalimentaire, les entreprises agroalimentaires ont de nombreux titres de presse en Bretagne, donc elles ont beaucoup de moyens de diffuser, en plus de leurs réseaux sociaux, elles ont beaucoup de moyens de diffuser leurs informations et aussi de salir justement la réputation d'une personne. Mais c'est ça qui était vraiment assez incroyable dans le sujet des algues vertes, c'est que c'est un phénomène hyper visible, une pollution hyper visible par rapport aux pesticides qui sont une pollution invisible et dont les effets sont sur le très long terme en général. Les algues vertes, c'est une pollution hyper visible et quand on en meurt, comme ça dégage en putréfiant ces algues un gaz très toxique qui tue en quelques minutes comme le cyanure, quand on en meurt immédiatement. Donc a priori, on a tout sous les yeux et pourtant, personne ne veut voir ce problème et les rares personnes qui le pointent du doigt, donc cet urgentiste Pierre-Philippe, urgentiste à l'hôpital de Lannion qui...
C'est le tout début de votre bande dessinée. Hein.
Voilà, ouais. Qui recense les morts depuis 1989. Ce militant écologiste dont vous parlez, André Olivreau, ou moi-même, quand je viens en tant que journaliste enquêter, on devient les ennemis de la société bretonne, enfin en tout cas de ses dirigeants, et on est accusé de salir la Bretagne. C'est incroyable parce qu'on pointe justement une pollution, mais c'est nous qui sommes ceux qui salissent la Bretagne.
C'est extrêmement intéressant d'ailleurs, puisque vous le rappelez souvent et dans la bande dessinée et dans le documentaire radiophonique, c'est qu'en Bretagne, on vous parle de pollution visuelle, c'est-à-dire le problème, c'est que c'est moche à voir, mais c'est tout, ça va pas plus loin que là. Alors je vous l'ai dit, donc c'est le début de la bande dessinée, c'est le docteur Pierre-Philippe, on se souvient tous de ce type qui faisait du cheval en baie de Saint-Michel en grève, le monsieur est transporté inconscient aux urgences, il convulse, son cheval lui est mort au milieu des algues verte. Et le docteur Pierre-Philippe, ce soir-là, est à l'hôpital et il se souvient d'une vieille histoire, celle d'un jogger qui est mort sur la plage quelques années auparavant.
Dès qu'ils ont ouvert la housse, c'était totalement irrespirable. Pas lié à l'état du corps, lié aux émanations des algues vertes dans lesquelles il avait séjourné pendant 3 ou 4 jours. Et donc, j'avais demandé à ce qu'il y ait une autopsie de fait sur l'hôpital de Saint-Brieuc pour déterminer l'origine du décès. Je n'ai jamais eu le résultat de l'autopsie.
Pourquoi ?
Je ne sais pas. Même 20 ans plus tard, j'ai demandé le résultat de cette autopsie. Je n'ai jamais réussi à l'obtenir. Que ce soit après plusieurs demandes auprès du procureur de la République, auprès de différentes instances, ça a été une fin de non-recevoir. Je n'ai jamais réussi à l'obtenir.
Inès Léraud, vous racontez le ramasseur d'algues, trouvé lui aussi inconscient dans son tracteur. Il n'en est pas mort. Vous racontez deux gros chiens qui, eux, sont morts sur le coup d'infarctus, les deux au même temps, au milieu des algues. Il se trouve qu'ils appartenaient à une dame qui travaillait chez un véto et qu'elle a pu faire examiner les corps. Vous racontez aussi que, vous, journaliste, vous avez la preuve que les autorités locales savaient et cachaient le problème.
Oui, tout à fait. En fait, il y a un rapport du milieu des années 2000 de la DAS, qui s'appelle aujourd'hui l'Autorité Régionale de Santé, qui montre que des mesures avaient été faites sur les plages, notamment de Saint-Michel-en-Grève, à l'endroit où était mort, où sont morts plus tard le cavalier, où est mort plus tard le cheval et le cavalier a été retrouvé inconscient. Et déjà, ces études montraient que les doses mortelles étaient atteintes. Ces résultats avaient été transmis à la préfecture des Côtes d'Armor. Et pourtant, quelques années plus tard, quand les chiens meurent, quand le cheval meurt, etc., la préfecture va dire non, aucun danger mortel n'a jamais été mesuré sur ces plages bretonnes.
Et c'est là où vous sert la bande dessinée et le visuel. C'est-à-dire que quand on commence à retrouver des dizaines de sangliers morts dans l'estuaire d'une rivière, évidemment, visuellement, c'est extrêmement frappant. Oui, là où le son était peut-être un peu limité pour montrer l'horreur de ce que c'est.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait longtemps que je fais du documentaire radiophonique et que là, avec cette enquête sur les algues vertes notamment, j'ai prouvé une limite avec mon média et que finalement, la bande dessinée... donnait presque les moyens du cinéma pour développer cette enquête et montrer des choses qui sont difficilement montrables à la radio, les visages des gens, leurs réactions, leur malaise. Ouais. Effectivement, l'ampleur des dégâts.
La télévision s'y était essayée parce que vous racontez dans la bande dessinée la colère provoquée par un reportage de Thalassa en 2009. Moi, j'ai essayé de retrouver ce reportage de Thalassa, je ne l'ai pas retrouvé. Mais en revanche, j'ai retrouvé le papier du Télégramme de Brest à la suite de ce reportage. En Bretagne, les gens étaient fous furieux.
Oui, le reportage de Thalassa sur les algues vertes.
Oui,
c'est incroyable. Il a provoqué en fait une levée de boucliers de tous les élus locaux contre l'animateur de Thalassa en disant qu'ils reviennent pas.
Georges Pernoud à l'époque.
Georges Pernoud qui ne reviennent pas sur notre territoire et Georges Pernoud m'a raconté que en fait les acteurs bretons ont envoyé des fax à l'époque à Thalassa en série pour bloquer son fax et empêcher sa rédaction de travailler.
Je voudrais vous faire écouter François Fillon, Premier ministre de Nicolas Sarkozy.
Ces pollutions présentent un danger pour la santé. Il y a d'ailleurs eu un accident il y a quelques semaines. Une étude que nous avons commandée ont démontré la toxicité de ces algues vertes dans certaines concentrations. Et donc l'État va prendre toutes ses responsabilités et va prendre à sa charge le nettoyage des plages qui sont les plus touchées, c'est-à-dire de celles sur lesquelles il peut y avoir un risque de santé publique.
Nous sommes là le 20 août 2009. C'est l'avantage aussi de la bande dessinée, Inès Leroux, c'est la possibilité de refaire en fait l'histoire de la modernisation du système de production, évidemment, agricole français, mais c'est aussi l'histoire de la prise de conscience, petit à petit, avec ses ratés et avec ses cachets.
Vous voulez dire...
C'est un chapitre entier pour montrer comment l'agriculture intensive, finalement, a pris le pas sur l'agriculture traditionnelle en Bretagne. C'est aussi l'occasion de raconter qu'en 99, l'État reconnaît déjà l'origine agricole des marées vertes. Et puis qu'en 2009, on va avoir ce premier plan algues vertes, que vous qualifiez de totalement inefficace. Mais malheureusement, ce premier plan, il est aussi l'occasion d'éloigner des commissions les plus importantes ceux qui étaient impliqués depuis le départ dans ce problème.
Oui, mais en fait, c'est ce qui était très intéressant et moi, ce qui m'a motivée dans cette enquête, c'était donc cet aspect hyper visible des algues vertes et ces réactions de déni, d'aveuglement, d'occultation et comment finalement il y a différents registres de vérité et temps de la vérité, c'est-à-dire qu'il y a le problème des algues vertes et leur cause est connu quasiment depuis les années 70 par la science, mais ça va vraiment être connu par l'État en 1999. Ouais. Et puis le danger des algues vertes est soulevé par cet urgentiste de Lannion dès 1989. Mais finalement, ça va une fois encore être connu par l'État qu'en 2009, au moment de la mort du cavalier, quand quatre ministres vont venir sur la plage de Saint-Michel en grève, dire il faut arrêter la politique de l'autruche. Dans les amas d'algues vertes, les doses d'hydrogène sulfuré, le gaz toxique qu'elles dégagent, sont deux fois les doses mortelles. Il faut arrêter. Et quelques mois plus tard, cette omerta qui semblait brisée est à nouveau réapparue sur les territoires bretons. Et donc c'est très étonnant de voir les registres de vérité scientifiques ou au niveau de l'administration ou au niveau des associations environnementales et puis à quel moment...
Alors c'est l'occasion aussi, la bande dessinée, de vous mettre en scène, vous comme journaliste, dans vos relations, par exemple, sur le long terme, avec un conseiller régional qui un jour vous...
Voilà, qui un jour, pour moi, dans l'affaire Morfoy,
peut-être que vous la racontiez, voilà.
Voilà, c'est l'affaire
d'un... Thierry Morfoy.
L'affaire Thierry Morfoy, c'est l'histoire d'un ramasseur d'algues vertes de la plage de Binic, d'un transporteur de ces algues vertes, qui va mourir au volant de son camion après avoir transporté plusieurs chargements d'algues vertes en putréfaction, desquels émanait ce gaz toxique. Et il va falloir... 10 ans pour que sa mort soit enfin reconnue comme un accident du travail. Mais en attendant, sa mort a été reconnue très récemment comme un accident du travail. Moi, j'ai enquêté entre-temps. Et c'est vrai que j'ai rencontré un conseiller régional qui dans un premier temps, et se présentait vraiment comme un lanceur d'alerte, qu'il a été d'ailleurs dans cette affaire. Enfin, c'est vraiment lui qui a participé à l'affaire ressurgir dans les médias, parce qu'elle avait été plus ou moins étouffée. Et finalement, quelques mois plus tard, je le recontacte parce que un organisme scientifique qui s'occupait de la question des algues vertes et de la pollution des eaux en Bretagne depuis plusieurs années, qui faisait un excellent travail, qui vivait que de subventions du conseil régional, enfin qui était donc subventionné par de l'argent public, et perd ses subventions et coule. Et je m'intéresse à cette affaire et je retourne voir ce conseiller régional, et lui me dit, mais voilà, on m'a dit que je parlais trop, je peux pas trop parler. Je lui dis, mais qui vous a dit ça? Je peux pas le dire. Et là, il me claque la porte au nez en me disant, vous m'avez fait dire des choses que je ne pensais pas la dernière fois, je ne veux plus vous parler. Voilà.
Voilà, l'histoire interdite des algues vertes, racontée par Inès Leroux et illustrée par Pierre Van Hove, je sais comme ça qu'on prononce. Voilà, et c'est sorti à la revue Dessinée chez Delcourt. Merci beaucoup Inès Leroux d'être venue nous voir dans l'instant même. Bonjour Ali Rebbi.
Bonjour Sainte Villers.
Alors, dans Grand Bien vous fasse.
Deuxième partie de notre émission consacrée au tout petit. Ouais. Comment parler de certains sujets sensibles au tout petit, au moins de 6 ans, comme la séparation, le divorce ou la sexualité? 01 45 24 7000.